Alors Allemagne, économie.
Bonjour et bienvenue, messieurs, dames, à ce nouveau numéro des Panoramas économiques sur votre radio. Les titres qui vous seront développés tout à l'heure. Le nettoyage bilantaire interne à la BIAC ont décelé des malversations et des fraudes financières. Les faits remontent à plusieurs années et sont portés à charge de certains cadres supérieurs de la banque, dont les directeurs des opérations qui se trouveraient même déjà en fuite. Les explications de l'administrateur délégué de la BIAC dans cette émission. Plus que quelques jours pour que tous les opérateurs économiques détenteurs du nouveau registre de commerce obtiennent le registre de commerce et de crédit immobilier. Mais quelle est la procédure à suivre? Quels frais à payer? Y aura-t-il une prolongation à ce délai? Autant de questions et nous tenterons d'y répondre avec notre invité dans Panorama économique et la deuxième édition du Salon de l'innovation qu'a organisé le ministère de l'Industrie et ses partenaires à Kinshasa jeudi et vendredi. C'est le reportage de la semaine que va nous présenter Nadine Foulantiba. Bienvenue, messieurs, dames, à Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Et nous allons recevoir Michel Somoué qui est avec nous au téléphone pour commenter et analyser l'actualité de la semaine. Monsieur Michel, bonjour et bon week-end. Surtout, bienvenue à Panorama économique.
Bonjour, monsieur Daniel, et merci de votre invitation.
Et dans cet studio, devant le micro, Daniel Tambinzoni et François Kadima pour vous présenter la rétrospective de l'actualité économique de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Des cas de malversation et de fraude financière perpétrés par certains cadres supérieurs de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC, c'est ce qu'a révélé une enquête interne de cette banque.
Pour l'administrateur délégué de la BIAC, qui a révélé cette information par la voie de presse, les charges sont à charge donc du cadre supérieur sont tellement importantes qu'il fallait le mettre à la portée du grand public. Michel Osembe se veut rassurant à l'endroit de clients et dit, je cite, « Cette situation n'affecte pas du tout la santé financière de la banque qui continuera à fonctionner normalement grâce à la solidité financière de l'entreprise. » On écoute Michel Losembe.
Nous avons, par souci de transparence, informé des malversations qui avaient eu lieu au sein de la banque dans le passé et que nous avons eu l'opportunité de découvrir récemment.
Comment vous vous en êtes rendu compte?
Vous savez que dans une banque, nous devons absolument vérifier toute la comptabilité, tenir des audits internes réguliers et faire des contrôles à travers toutes les transactions et les opérations qu'une banque est amenée à faire. Vous savez qu'une banque fait plusieurs centaines de milliers de transactions par semaine et par mois et nous sommes revenus derrière et revérifier l'ensemble des transactions et c'est comme ça que nous avons été à même de mettre en exergue un certain nombre de malversations.
Vous avez pu déceler quelques cas de malversation, ça peut remonter à combien? Si on peut se faire une idée sur le montant de ces malversations.
Écoutez, le montant précis, je ne peux pas vous le communiquer maintenant parce que nous sommes toujours en train de travailler et que nous avons, comme vous pouvez vous l'imaginer, initier un certain nombre de procédures judiciaires contre les employés malhonnêtes qui s'étaient livrés à ces malversations. Donc je ne peux pas vous en communiquer le montant à ce stade. Mais je peux vous dire qu'ils sont suffisamment importants pour que nous ayons estimé nécessaire d'en informer notre clientèle et notre...
Vous ne pensez pas qu'une telle information pourrait un peu faire peur à vos clients? Est-ce que vous les rassurez vraiment à faire confiance à la BIAC?
Absolument, je pense que c'est de les rassurer et de dire que nous avons trouvé des voleurs, que nous les avons arrêtés. Je pense que c'est ça qui était important dans la transparence et que le contraire aurait été malhonnête par rapport à nos clients, d'essayer de cacher cette information.
Les voleurs que vous avez attrapés mais que vous ne voulez pas dévoiler ni le montant de ce qu'ils ont volé.
Et là, c'est par respect par rapport à la procédure judiciaire en cours.
Michel Osembe, ne craignez-vous pas que de telles malversations peuvent fragiliser la BIAC et l'amener sur le bord du chaos dans l'avenir?
Écoutez, la BIAC est la troisième banque du pays avec près d'un demi-milliard de dollars de taille de bilan et est assise sur un capital important. Donc, nous avons un capital de près de 30 millions de dollars et nous opérons depuis 4 décennies. Non, nous avons un volet d'activité qui est très important et très soutenable et cette malversation n'est pas de nature à nous inquiéter.
Panorama économique sur Radio Capi, c'est le rendez-vous de tout le week-end. Et je vous disais, Michel Somoué, comment analyse cette actualité de la semaine avec nous? Ce n'est plus un invité à présenter sur Radio Capi. Mais en tout cas, Michel, vous avez suivi ce dossier des malversations financières, des fraudes à la BIAC. Il n'y a pas longtemps, surtout sur les antennes de Radio Capi, vous avez lancé une alerte selon laquelle quelques grandes banques de Kinshasa étaient sur le point, n'étaient pas vraiment au point. Et aujourd'hui, avec ce qui rebondit, ce qui sort aujourd'hui de la BIAC, ça peut certainement vous donner à parler.
Exactement, Daniel. Je suis d'autant plus inquiet que les propos de Michel Lossembe sont pleins de confusion et de non-dits, malheureusement. C'est vrai que j'avais alerté l'opinion sur les menaces de faillite qui pèsent au sein du système bancaire. Je n'ai pas voulu citer le nom d'une banque quelconque, mais je me dis simplement que si la situation était aussi calme que cela, ou que ne laisse entendre M. Lossembe, ça ne valait donc pas la peine d'en faire un point de presse.
Il a dit lui-même que les montants sont assez importants et il ne pouvait pas se taire, garder silence. C'est pourquoi il a voulu mettre ça à la place du public.
Si les montants sont assez importants, ils ne peuvent pas laisser la banque intacte. Si les montants sont assez importants, comme il le dit, et moi je peux vous dire que c'est des montants, c'est plusieurs millions de dollars qui se sont volatilisés. Et comment peut-on comprendre qu'un seul agent ait pu, à lui tout seul, escroquer la banque pour plusieurs millions de dollars, mais sans compter tous les autres agents qui sont dans la même situation, et sans compter tous les autres coups qui se font tous les jours contre la BIAC. Lorsque M. Lossembe dit que nous avons un capital important, nous avons un actif important au sein de la BIAC, moi je dis que ce n'est pas de l'analyse financière ça. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le montant du capital.
Il dirait quoi?
Ce qui compte, c'est l'adéquation du capital. Il y a des ratios qu'on doit vérifier. Il y a des ratios, de solvabilité de la banque. Il y a le coefficient de rendement de la banque. Il y a le coefficient de rentabilité de la banque. Il y a le multiplicateur des fonds propres. Voilà ce qui doit m'intéresser lorsqu'un monsieur parle du capital. Moi, je m'en tiens à ces 4 ou 5 ratios de gestion prudentielle qui envoient de la lumière et auprès des épargnants, et auprès des associés, ou je veux dire des actionnaires de la banque, et auprès des autorités de surveillance du système bancaire. Et quand je vois, par rapport à mes données, des données à ma possession concernant chacune des banques au Congo, quand j'analyse ces différents critères, j'ai deux fois plus de raisons de vous dire que le système bancaire congolais est dans une situation très très délicate et très très dangereuse. J'ai cité la fois dernière, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai dit qu'il y avait deux grandes banques qui allaient crier d'un moment à l'autre.
Donc,
je ne suis pas en train de dire que M. Lossembe est venu confirmer mes propos, je ne suis pas en train de le dire, mais je suis en train de dire simplement qu'il doit présenter à l'opinion publique, nationale et internationale, à l'ensemble de sa clientèle, sa situation bilantaire. Et que nous puissions faire l'analyse de la structure de son bilan, que nous puissions analyser les différents critères de gestion, d'efficacité de gestion et de rendement de l'investissement. C'est important qu'on en tienne compte. Mm-hmm. Et c'est ça qui va nous permettre de dire que telle banque est saine ou pas. Ce n'est pas de nous dire nous avons un capital important. Vous pouvez avoir un capital important, mais lorsque votre capital nous donne un coefficient de rentabilité qui est
faible,
c'est très dangereux. Si le multiplicateur de fonds propres est trop faible, c'est trop dangereux. Mais quelle est la structure des actifs de la banque, de la BIAC? Quelle est la structure du passif de la BIAC? Et comment se gèrent et les actifs et les passifs de la BIAC? C'est important.
Et vous pensez que jusqu'aujourd'hui, l'alerte que vous avez lancée l'autre fois tient? Le système bancaire en RDC est sur le bord du chaos?
Et c'est deux fois plus. Je confirme mes propos, il y a des banques qui vont fermer des mois.
Et nous,
je ne dis pas en termes de jours, mais je vous dis que la situation est catastrophique.
Et nous vous gardons, Michel Somoué, pour le deuxième dossier de la semaine, dossier qui est consacré au registre du commerce et des crédits immobiliers de l'OADA, qui est censé remplacer le nouveau registre du commerce à partir du 12 septembre prochain.
Oui, Daniel, mais quelle procédure suivre pour obtenir ce document? Quels frais à payer? À qui s'adresser? Ce sont les questions que beaucoup beaucoup se posent et pour y répondre, trois adresses sont indiquées, c'est soit au guichet unique pour la création des entreprises, soit aux tribunaux de commerce ou encore au greffe du tribunal de grande instance. Nous avons approché le directeur général du guichet unique qui nous parle ici des conditions que cela exige pour les entreprises. Écoutez le professeur Amissi Eradi.
Alors, la procédure, je peux l'expliquer en distinguant les deux catégories d'entreprises. Nous avons les entreprises sociétaires et nous avons les entreprises individuelles qu'on appelle personnes physiques ou encore établissements. Il y a trois phases. La première phase, c'est d'abord la décision de pouvoir se conformer à l'OADA. En organisant une assemblée générale, il faut élaborer maintenant un procès verbal. Il faut maintenant harmoniser. C'est-à-dire quoi? Vous devez maintenant revisiter vos statuts. Partout dans vos statuts, là où il y a SPRL, vous devez modifier par SARL. Une fois que ce toilettage des statuts est fait, vous vous dirigez maintenant au guichet unique des créations d'entreprise. Quand vous venez pour l'harmonisation, vous devez amener deux documents. Procès verbal de l'Assemblée générale, lequel procès verbal doit être authentifié par les notaires. Vous devez apporter les nouveaux statuts, mais vous devez également venir avec la copie de l'ancien nouveau registre de commerce. Là, c'est la première forme d'entreprise. La deuxième forme maintenant, c'est lorsqu'il s'agit d'un établissement. Alors, pour l'établissement, il faut tout simplement nous amener l'original de votre ancien nouveau registre de commerce. Le nouveau registre de commerce n'existe plus. Il a été remplacé par le registre de commerce et de crédit immobilier. Donc pour les établissements, c'est gratuit. Tandis que lorsqu'il s'agit de sociétés, il y a quand même un petit coût qu'il faut supporter. Lorsque un opérateur économique se présente au guichet unique avec un seul exemplaire du procès verbal, un seul exemplaire des statuts, eh bien, vous allez payer 110 dollars, hein, plus 5 600 francs congolais de frais bancaires. Ce montant-là peut augmenter, ça peut varier, en fonction des besoins de la société.
Le professeur Amissi Eradi, directeur général du guichet unique pour la création des entreprises. Mais François, nous avions suivi il y a quelques jours les sons, l'écho venant de Mbujimayi nous disait qu'il fallait payer 18 400 francs congolais. Mais là, le professeur est en train de parler de 100 dollars plus 5 000 quelque chose. Ça veut dire quoi ça?
Alors, il a expliqué hier que, en fait, c'était lors de notre entretien, que juste pour payer, c'est quand vous avez une société. Et cette société qui doit, avant d'avoir le registre des commerces et crédits, doit d'abord passer par une assemblée générale
pour changer le procès verbal.
Et puis le procès verbal, il faut qu'il passe par être notarié. Donc cela demande quelques frais,
c'est ça, les 100 dollars.
Oui, les 100
mais pour
dollars,
les individus, les établissements.
Alors pour les établissements, cela n'exige aucun frais. Ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, si pour les cas de Mbujimayi, il y a des frais exigés pour les établissements, alors cela ne doit pas se passer comme ça. Parce que juste pour les sociétés, il faut payer 100 dollars et 5
mais
000
pour
francs.
Les petits établissements.
Non, mais là, c'est un individu et cela n'exige pas de donner quelque chose. Donc, c'est aucun frais. Parce que là, vous n'amenez que l'ancien nouveau registre des commerces.
Et on vous donne le RCCM.
Le RCCM, sans verser quelque chose.
Merci beaucoup, François, pour cette précision. Et nous allons retrouver notre invité qui est en ligne, Michel Somoué. La RDC a eu 2 ans pour que les opérateurs économiques passent du nouveau registre de commerce au registre de commerce et du crédit immobilier que l'OADA donne avec l'adhésion de la RDC à l'OADA. Mais on a comme l'impression, M. Michel, que l'information n'a pas, il n'y a pas une bonne sensibilisation, il n'y a pas eu bonne formation des opérateurs économiques et que vraiment il y a des gens qui risquent d'être frappés après le 12 septembre. Quel est votre commentaire, votre analyse par rapport à cette situation?
Daniel, simplement, je dirais que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve. Le problème de changement du registre de commerce, de passer du nouveau registre de commerce au régime du commerce de crédit immobilier de l'OADA, devrait donner lieu à une bonne campagne d'interprétation, d'explication, pour convaincre l'opinion. Parce que la question qu'il faut se poser est celle de savoir qu'est-ce que le registre de commerce de l'OADA apporte de plus que le nouveau registre de commerce dans l'ancien régime. Quelle autre adhésion à l'OADA apporte à la PME congolaise notamment? Parce qu'il s'agit, on a parlé des établissements, on a parlé des sociétés par action. Tout cela a des conditions, notamment la création de sociétés par action dans un pays comme le nôtre, où l'infrastructure financière est encore vide. Quels sont les organismes ou les sociétés d'émission des actions? dans un environnement où vous n'avez pas de banque d'affaires, vous n'avez pas de société d'investissement, comment voulez-vous sauter les étapes, prenez les étapes jusqu'à vous trouver maintenant dans un environnement où pour être société, vous devez nécessairement être société par action.
Oui, s'il vous plaît, Monsieur Michel, certaines sources que nous avons contactées nous ont dit que les choses ont été précipitées. Il n'y a pas eu un bon moment de campagne de sensibilisation des opérateurs parce qu'il fallait être quand même à l'OADA à la veille du sommet de la francophonie qui a eu lieu en RDC. On a précipité les choses à cette occasion-là.
Je suis justement en train de dire qu'on a brûlé les étapes. On brûle les étapes. Non seulement du point de vue de la sensibilisation des agents, mais aussi les conditions même de conformation aux exigences de l'OADA ne sont pas encore, à mon humble avis, réunies dans ce pays. Je vous ai dit, quand on parle de société par action, on sait que les actions et les obligations sont des valeurs mobilières.
Mmh.
Et ces valeurs mobilières ont leurs conditions, ont des conditions de leur émission dans un environnement donné. C'est-à-dire, il y a des conditions d'investissement dans un régime comme celui-là. Ces conditions tiennent essentiellement à l'industrie financière existante dans le pays. Cette industrie, elle est absente du Congo. Mais alors, on va créer des sociétés par action qui ne sont par action que des noms. Et au-delà de ça, on n'explique même pas aux gens, ça veut dire quoi une société par action? On ne le dit pas, l'opinion ne le sait pas. Les établissements, on dit ok, ils ne paieront pas, ils vont avoir leur registre de commerce de l'OADA sans payer des frais, ça va. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce que l'OADA finalement apporte comme solution à l'économie congolaise? Moi je pense que j'ai eu l'occasion de donner plusieurs conférences dans plusieurs endroits intellectuels et dans des milieux d'affaires dans ce pays, où jusqu'aujourd'hui, de mes recherches profondes, je ne trouve pas sincèrement quelque chose que particulièrement l'OADA va apporter comme solution au problème, au véritable problème que nous nous posons dans notre pays.
Mais il risque alors de venir avec son lot de problèmes parce qu'après le 11 septembre, certains opérateurs vont perdre la qualité des commerçants. Alors oui, ça va être difficile après le 12 parce que, en tout cas, les échos de la RDC, parce que Radio Capi est quand même représentative, nous avons poser la question aux représentants de la FEC presque de toutes les provinces. En tout cas, la moyenne jusque-là n'est pas encore atteinte pour ceux qui sont prêts à obtenir ces documents. Ils vont perdre leur qualité.
Et Daniel, pour vous compléter, je suis passé au guichet unique. J'ai constaté qu'il y avait en tout cas engouement. Et
Il ne reste que quelques jours.
Alors, ça inquiète quand même pour les opérateurs économiques, M. Michel.
Oui, ça inquiète. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? On va gonfler le rang de l'économie du secteur informel. Si on va s'enregistrer auprès du guichet unique, au tribunal de commerce, si on s'enregistre, c'est pour sortir plus ou moins de ce carcan de l'économie informelle. Mais aujourd'hui, tous ceux qui n'auront pas réuni les conditions exigées de l'OADA seront considérés comme non existants. Comme vous dites, ils vont perdre la qualité de commerçant. Ils vont perdre officiellement la qualité de commerçant, mais ils vont continuer à fonctionner comme toute l'économie informelle du Congo fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et c'est elle qui est majoritaire. Moi, je pense que le gouvernement aurait dû réfléchir sur les conditions de réduire la prépondérance du secteur informel dans notre économie en structurant de façon plus efficace l'économie interne plutôt que de bondir de cette façon-là vers une économie internationale
présentant de faiblesses en interne.
Derrière soi.
Ok. Le troisième dossier de la semaine, le gouvernement congolais crée une nouvelle compagnie aérienne nationale. Il sera de droit congolais et dénommé Congo Airways.
Le protocole d'accord a été signé dans ce sens en début de week-end dernier à Kinshasa Centre. Le gouvernement congolais, représenté par le Premier ministre Matata Ponyo et le représentant de la compagnie Air France. Air France va servir de partenaire technique à Congo Airways pour une bonne sécurité aérienne suivant les accords. Mais comment la compagnie Congo Airways va-t-elle fonctionner et qui en sont actionnaires et pour quel capital social? Nadine Fulantimba nous en parle.
Congo Airways est définie à sa création comme une société purement congolaise avec perspective d'ouvrir ses capitaux au privé. Son capital social est fixé à plus de 32 milliards de francs congolais représentés en 10 000 actions. Le gouvernement congolais est actionnaire majoritaire avec 62,72% des parts. Les autres actionnaires sont à 7. Parmi eux, on peut noter la SCPT, la GECAMINE, l'OGFREM, le FPI, l'INSS et les employés de Congo Airways qui souscrivent chacun pour 5,73%. La RVA est le seul actionnaire qui participe à hauteur de 2,87%. Déjà, plus de 14 milliards milliards de francs congolais ont été mobilisés par les partis engagés, dont plus de 10 milliards du gouvernement congolais représentant déjà 50% de l'ensemble de son engagement dans Congo Airways. Les 6 autres partenaires n'ont donné jusque-là que 25% de leur souscription. Seule la SCPT a libéré la totalité de sa part dans le capital social.
Organiser le premier vol de Congo Airways d'ici fin décembre 2014, c'est ce que veut le gouvernement, monsieur Michel. Une nouvelle compagnie aérienne qui est créée, et jusque-là, je peux dire, c'est à 100% gouvernement congolais, parce que c'est le gouvernement qui souscrit à plus de 62% du capital social. Et à côté, ce sont les sociétés dans lesquelles le gouvernement, l'État congolais, est l'unique actionnaire. SCPT, OGFREM, GECAMINE, tout ça, c'est l'État congolais. Comment vous avez pu apprendre et réfléchir sur cette nouvelle de la création de cette compagnie?
Je pense que pour un pays qui se respecte, comme la RD Congo, disposer d'une compagnie aérienne nationale, je pense que ça fait partie quand même des grands bénéfices qu'il faut attendre d'un gouvernement. Le problème ne se pose pas. Il faudrait bien avoir une compagnie nationale parce que nous en avons été privés pendant des années. Par contre, la question est la suivante. Est-ce que nous avons tiré suffisamment de leçons de la déconfiture de l'AC dont les fonctionnaires ou les agents totalisent plus de 200 mois d'impayement? Quel rapport l'État congolais fait entre Congo Airways et les lignes aériennes congolaises? Ils sont en faillite ou en liquidation, je ne sais pas comment. Comment la nouvelle compagnie hérite-t-elle du passif et de l'actif des lacs, ou est-ce totalement une nouvelle société qui n'a aucun rapport avec les lacs? Parce qu'il ne suffit pas il ne s'agit pas de changer de lieu comme on fait du peuple nomade de l'époque en changeant de lieu, mais il est question aujourd'hui, modernisme oblige, de rentabiliser là où on se trouve. Et de voir quelles sont vraiment les causes de la déconfiture de l'AC pour que nous puissions y remédier et relancer la compagnie nationale, parce que l'AC est une compagnie nationale au même titre que Congo Airways qu'on est en train de traîner.
De créer.
Il en est ainsi aussi du transport routier. On a vu, ce pays avait une compagnie qu'on appelait Stuc ou City Train, etc. Et du jour au lendemain, on crée une autre société de transport en commun qui appartient au même État congolais. Et qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne société? On ne dit rien. Ça reste un mystère. Moi, j'estime que cette façon de gérer, c'est vraiment la meilleure façon de se comporter comme un nomade, changeant de lieu au gré du climat ou des circonstances, sans avoir le souci de la pérennité, de la pérennisation de son action. Congo Airways, bienvenue, mais je voudrais que Congo Airways soit plutôt la transcription, ou si vous voulez, l'héritage plus intelligent, ou la solution apportée aux problèmes qui sont posés dans le cadre de la ligne des lignes aériennes congolaises.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine avant de terminer, et nous allons commencer par cette baisse du prix d'achat de caoutchouc observée cette semaine dans la cité d'Ikela. Ikela, c'est une cité située à 1014 km à l'est de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Cette information a été livrée par le président de la Fédération des entreprises du Congo, antenne d'Ikela, au cours d'un point de presse. Une tonne de caoutchouc vendue autrefois à 160 000 francs congolais a chuté jusqu'à 100 000 francs congolais. Les sources locales évoquent le problème d'évacuation de ce produit à la base de cette situation.
Nous avions parlé mardi de ces bâtons toujours interdits de charger les marchandises. Au port de Congo, nous sommes au nord Katanga. Les autorités territoriales conditionnent tout chargement par le paiement de la taxe provinciale sur les produits agricoles malgré l'existence de l'arrêté interministériel la suspendant. Pour l'administrateur du territoire assistant à charge de d'économie et finances de Congolo. Cette taxe était instituée par une ordonnance présidentielle et ne peut donc pas être abrogée par un arrêté interministériel.
Au Kasaï occidental, la délégation syndicale de la SNCC Mouneditou demande à la direction générale de trouver une solution palliative en rapport avec les arriérés de salaire. Ils ont présenté leur doléance mardi à Mbujimayi auprès du ministre provincial des Travaux publics et infrastructures. Cela suite à une mesure prise par la direction générale de suspendre les avances sur salaire.
Revenons à Kinshasa pour parler du taux débiteur que les banques commerciales appliquent sur les crédits à leurs clients et les 10 locomotives neuves promises par le gouvernement à la SNCC, configurées parmi les sujets à l'ordre du jour de la Troïka stratégique à la primature cette semaine. Au sujet du taux directeur, la Troïka stratégique estime qu'il est encore et toujours très élevé et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, encore une fois, est prié de faire des propositions concrètes qui permettront de le revoir à la baisse. Quant à la promesse de 10 locomotives neuves à la SNCC, le ministre des Finances a reçu des instructions pour procéder à l'achat.
Merci François pour cette série d'infos de la semaine. Nous retrouvons notre invité au bout du fil, Michel Somoué. Certainement, le taux débiteur des crédits vous intéresse.
Absolument, absolument Daniel. Les taux débiteurs, ce sont qui s'applique dans notre pays, s'approche de l'usure. Et il ne s'agit pas, comme le veut l'équipe gouvernementale qui s'est surnommée Troïka stratégique, de traiter cette question avec la légèreté que je note. Il s'agit de mettre en place un cadre institutionnel, un environnement macroéconomique qui oblige les banques à faire tomber au niveau raisonnable les taux débiteurs.
Peut-être pour vous donner quelques éléments de commentaire, Monsieur Michel, cette question, je crois, elle est inscrite au menu de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale. Je peux me le permettre, plus d'une année, on parle de plus même avant l'actuel gouverneur de la Banque centrale. On parlait déjà de ce taux débiteur des banques qui est à la hausse, alors que la Banque centrale a baissé son taux directeur. Les banques commerciales sont restées dans l'espace. On ne sait pas le ramener à terre. Et même le gouvernement se met sur cette question. Et toujours, il n'y a pas de réponse concrète à cette question.
J'ai déjà dit, depuis plus de 10 ans, Daniel, j'ai même écrit mon livre « La gangrène de l'économie congolaise » qui a été suffisamment et abondamment lu dans ce pays, publié en 2005. J'avais déjà dénoncé ce problème de taux débiteur trop élevé, mais en mentionnant clairement qu'il n'y a pas de relation entre le taux directeur de la Banque centrale et les taux débiteurs du système bancaire congolais, et que cela relevait de la faiblesse de la politique monétaire de la Banque centrale. Je ne vois pas jusqu'aujourd'hui des mesures qui ont été prises du côté de la Banque centrale pour rattacher les taux, pour obliger les banques à se rallier, ou si vous voulez, à dépendre, techniquement parlant, de la politique monétaire de la Banque centrale. Cela aussi, ça c'est du point de vue du côté de la politique monétaire. Du côté du cadre macroéconomique dans son ensemble, le gouvernement n'a pas été en mesure, malgré tous ces bruits qu'il fait autour de la question, n'a jamais été en mesure de mettre dans ce pays un environnement macroéconomique qui oblige les banques à réduire leurs craintes. Si vraiment le cadre macroéconomique était à ce point assaini, stabilisé comme on le dit, les taux directeurs devraient d'eux-mêmes baisser sans la moindre chicotte du côté de la Banque centrale. Si ils demeurent élevés et le gouvernement le constate, cela constitue un message clair et net que l'environnement macroéconomique congolais demeure à la fois risqué, instable et incohérent. Le message est clair. Mais je voulais vous faire un petit commentaire aussi à propos de la société SNCC.
Rapidement, puisque le temps court.
Très rapidement, Daniel, je voudrais simplement dire que je ne comprends pas le comportement du gouvernement. En 1994 ou 1995, la SNCC avait été liquidée par le gouvernement Kengo en faveur d'une société qu'on avait appelée Cesarai. Mais par quel coup de magie la SNCC est-elle revenue à la vie? Moi, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que Sidara est devenu? Je ne comprends pas non plus. Est-ce que nous lisons les documents? Est-ce que l'État congolais se comporte comme un gouvernement responsable qui est caractérisé par ce qu'on appelle, encore une fois que j'ai dit tout à l'heure, la continuité de l'action du gouvernement? Ou bien chacun qui arrive aujourd'hui prend des mesures comme si de rien n'avait existé avant lui? C'est la question qu'il faut se poser pour que la gestion du pays soit cohérente, pour être efficace et pour être crédible.
Eh bien, faute de temps, nous ne pouvons pas revenir sur la deuxième édition du Salon de l'innovation qui a vécu jeudi et vendredi ici à Kinshasa. Cette édition était organisée par le ministère de l'Industrie et ses partenaires. La deuxième édition de cet événement voulait faire découvrir les innovations congolaises et offrir aux entreprises congolaises un cadre pour exposer leurs produits. Et voilà le reportage de Nadine Foula, nous ne saurons pas le prendre. Merci à vous, Michel Soumou, d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
Et moi, je vous remercie, Daniel.
Merci beaucoup et merci à vos chers auditeurs pour l'attention particulière apportée à Panorama économique qui s'achève, mais retrouvez-le sur www.radiookapi.net.